journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa numéro 1. Africa.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le journal des auditeurs. Aujourd'hui, le JDA s'intéresse à l'émergence. Alors Gabon, Bénin, Sénégal, Congo, Brazzaville, tous ces pays se sont fixés comme objectif d'être des pays émergents à l'horizon 2020 ou 2030 selon les calendriers. L'émergence est-elle un discours politique à la mode ou un véritable programme de développement ? Pour en parler, nous recevrons Yves Ekwe Amaizo, consultant international, directeur du groupe de réflexion et d'influence Afrocentricity Think Tank. Alors pour réagir à ce sujet, posez vos questions ou nous livrez vos commentaires. Appelez dès maintenant au 01 55 07 58 00 depuis la France ou au 00 33 1 55 07 58 00 si vous appelez depuis Dakar, Cancan ou encore depuis Praia au Cap-Vert. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet comme de tradition, voici quelques-uns des messages que vous nous avez laissés sur le répondeur d'Africa numéro 1.
Le JDA, c'est sur Africa numéro 1.
Oui, bonjour GDA, bonsoir tout le monde, Africa numéro 1. Donc, je voulais laisser un message à tous les Africains que, bien, je viens d'attendre que, qu'il y ait une convention en ce qui concerne les pays Maghreb, surtout qui concerne le Mali. On ne lâchera pas l'affaire parce que une convention en venant des pays Maghreb est toujours fondée sur un seul protocole, protocole à sens unique. Aujourd'hui, les Africains ont compris que de Maroc jusqu'en Égypte, leur protocole est à sens unique et il n'y en aura jamais un contrat. Il n'y a jamais eu un contrat, il n'y en aura jamais un contrat. Merci.
Bonjour amis du JDA. Quand j'entends les présidents africains nous projeter aujourd'hui à une émergence pour 2025-2035, cela me fait sourire et pleurer en même temps. Le plus hallucinant, c'est de l'entendre de la bouche de ceux-là même qui sont au pouvoir de près ou de loin depuis des décennies et qui se sont plutôt dévoués à s'amasser de grandes richesses et dilapider les sous du peuple en le laissant sur le carreau, sans scrupule. Quand plus de 50 ans après les indépendances, les femmes meurent en couche, sans parler des nouveau-nés, l'avenir d'un grand nombre de la jeunesse africaine sacrifiée par le manque d'école ou structure, sans omettre la santé du peuple qui n'a jamais préoccupé nos soi-disant dirigeants. L'émergence, pour moi, c'est un effet de mood, du bluff tout simplement. Bonne journée à tous.
Bonjour auditeur du JDA. C'est lourd. Je suis ivoirien. Je voulais apporter ma contribution à l'émergence de l'économie africaine, dont notamment on parle du Sénégal aujourd'hui. Vous savez, les institutions comme le FMI ne vont bien que lorsque nous étions mal. Je disais tantôt que ce qu'il manque à l'Afrique, c'est le transfert de la technologie. Il y a de l'arachide au Sénégal, il y a du café en Côte d'Ivoire, il y a du cacao. Alors, si nous avions le transfert de la technologie, je pense que cela aurait pu créer de l'emploi sur le continent africain et respectivement dans nos pays. Qu'est-ce qu'on observe? Il y a des gens qui se prétendent spécialistes des problèmes africains qui n'ont jamais été piqués par un seul moustique. Alors là, allez-y vous poser des questions. Posons-nous cette question-là. Parce que les Africains sont intelligents, mais le transfert de la technologie nous manque énormément. Aujourd'hui, quand on parle d'émergence économique, c'est comme une vanne qu'on ouvre, et dans cette vanne, il y a plusieurs paramètres. Il faudrait considérer que les différentes diasporas, disons que les Africains qui sont éparpillés dans les pays tels que l'Europe et tout ça, ce sont des gens qui peuvent, n'est-ce pas, apporter un plus à l'économie.
Prenez la parole dans le JDA sur Africa numéro 1.
Africa.
Appelez-nous maintenant pour intervenir en direct dans le journal des auditeurs. Pour cela, un seul numéro, le 01 55 07 58 00 depuis la France ou le 00 33 1 55 07 58 00 depuis l'étranger. Le JDA s'intéresse donc aujourd'hui à l'émergence et pour en parler avec nous, Yves Ekwe Amaizo, consultant international, directeur du groupe de réflexion et d'influence Afrocentricity Think Tank. Yves Ekwe Amaizo, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, le président sénégalais, Macky Sall, se trouvait hier à Paris afin de recueillir 3000 milliards de francs CFA auprès des bailleurs de fonds et des décideurs économiques. Cet argent doit permettre de faire du Sénégal un pays émergent à l'horizon 2035. Première question, Yves Ekwe Amaizo, allons droit au but. Est-ce que l'émergence est un discours politique à la mode, une coquille vide, ou recouvre-t-elle un véritable plan de développement stratégique.
Ben vous avez les trois. Vous avez des pays qui en font un simple discours. Il y avait des pays qui ont fait un véritable plan stratégique et qui le mettent en œuvre et qui passent même à l'opération actuellement. Et vous en avez d'autres qui font les deux en même temps, c'est-à-dire qu'il y a le plan qui est là, et il y a même le discours sur l'émergence, mais ils ne le mettent pas en application, et la raison est toute simple, c'est qu'ils ne veulent pas faire confiance au secteur privé national, j'insiste bien sur national,
parce que quand vous allez voir un
patronat ou un chambre de commerce où tout est français ou allemand ou espagnol, vous posez des questions sur l'avenir de l'émergence africaine.
C'est très clair. Alors le Sénégal n'est pas le seul pays, hein, vous le disiez, à avoir cette ambition pour faire un rapide tour d'horizon. Alors le Bénin a l'ambition de devenir un pays émergent en 2025, tout comme le Congo-Brazzaville et le Gabon. Le gouvernement ivoirien, lui, se veut plus ambitieux en se fixant l'objectif de 2020. Yves Ekwa Maïso, que pensez-vous de ces objectifs et sont-ils réalisables ?
Ben, je pense d'abord que je ne sais pas qui les a donné, qui leur a donné les dates, mais les dates, pour la plupart, sont irréalisables. Il faut partir du principe que ceux qui étaient au pouvoir entre 1960 et 2013, et qui n'ont pas donc réussi l'émergence, parce qu'il faut se comparer à l'Amérique latine et en Asie, et il faudrait qu'ils démissionnent d'abord, parce que c'est d'abord à cause d'eux qu'il n'y a pas d'émergence aujourd'hui en Afrique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est beaucoup plus profonde, je ne sais pas comment ils font leurs calculs, mais c'est des calculs qui repoussent à quelques années. En Côte d'Ivoire, on nous a parlé de 2020. Moi, j'ai fait un calcul, je suis déjà à 2034-2038. Donc, vous voyez déjà l'objectif.
Et comment vous faites vos calculs, Yves Ekwa Maïso ?
Il y a plusieurs critères, on n'aura pas le temps de développer, mais tout simplement pour voir. D'abord, se compare au niveau de ce qu'on fait par rapport à la sous-région, par rapport à l'Afrique, par rapport aux pays émergents eux-mêmes, et par rapport, bien sûr, aux pays industrialisés. Il ne s'agit, et j'insiste dessus, pas de rattraper. Il ne s'agit pas de faire comme les États-Unis. Il ne s'agit pas de manger McDonald's là où il y a le Cheke ou le Chepjin. Non, il s'agit de trouver un moyen à partir des valeurs africaines, donc le bien-être des Africains et des instruments de mesure. Et à ce moment-là, si on parle d'émergence économique, des instruments de mesure économiques. Et il y en a un certain nombre qu'on peut comparer et sur des bases équitables pour l'ensemble des gens qui participent à cela. Malheureusement, ces instruments-là, on ne veut pas les utiliser, qui souvent vont vers de la convergence, qui explique d'ailleurs que les pays émergents, entre eux, n'arrivent pas à trouver un point d'ancrage pour pouvoir justement contrer les États-Unis ou les pays les plus riches aujourd'hui, qui sont en train de débattre au niveau de la valeur monétaire de leurs réserves. On va y revenir.
C'est très clair, effectivement, on y reviendra, Yves Ekwa Maïso. Alors, selon l'économiste François-Xavier Belloc, l'émergence est la capacité d'un pays à transformer sa croissance en développement économique et social durable. Alors les pays africains ont effectivement des taux de croissance élevés à faire pâlir les économies européennes. Mais ce taux de croissance assure-t-il un développement économique à ces pays, Yves-Ekwa Maïso ? Est-ce qu'il suffit d'avoir de la croissance ?
Je suis d'accord avec la définition que vous avez donnée, parce que c'est une définition complètement économique. La réalité pour toute personne qui écoute cette radio, c'est d'abord de transformer, une transformation structurelle. Voilà que ces pays dits riches sont venus nous faire l'ajustement structurel. Et on a mis nos économies par terre, il faut le dire clairement. Donc il faut maintenant passer à la transformation structurelle. Comment se fait-il que nous ne transformons pas la banane en ketchup, par exemple ? Comment se fait-il que nous ne faisons pas la mangue en jus d'ananas ou toute forme de confiture, etc. Café, cacao, on peut en passer des meilleurs. Quand on fait déjà ça, on réussit deux choses. On crée de l'emploi au niveau national pour des nationaux, notamment les jeunes et les femmes, voire même les handicapés. Et deux, on a des produits améliorés avec du contenu technologique, donc de qualité, qu'on peut exporter. Et à partir de ce moment-là, on est en plein dans la mondialisation et on en tire un profit intelligent. Sauf que voilà, si les chefs d'État décident de ne pas faire ça et s'aligner sur la rente, ce qui fait qu'ils ne transforment pas. On n'a pas de transformation, par exemple, du pétrole. Regardez des pays qui ont beaucoup de pétrole. Je ne vais pas les citer pour pas vous faire des histoires à votre radio. Mais on n'a même pas une capacité de transformer le pétrole brut en une essence qui rentre dans les voitures que nous avons localement. On n'a même pas d'industrie de voitures en Afrique pour la plupart du temps. Ce sont des pièces ici et là. Comment ça se fait qu'il y a une population que nous avons qui est en croissance de 3,2%, nous n'avons pas encore une industrie de voitures, etc.
Donc, effectivement, Maïso, excusez-moi, je vous interromps. Vous parliez de produits manufacturés, mais alors, il se trouve que justement, la part des biens manufacturés dans les exportations africaines a baissé et passé de 43% en 2000 à 39% en 2008. Comment expliquez-vous finalement on a de moins en moins, on exporte de moins en moins de biens manufacturés? Ça devrait être l'inverse.
C'est tout simplement parce que je vous dis, c'est la rente. On préfère ne pas transformer. On préfère prendre de l'argent du pétrole ou des matières premières qui rapportent beaucoup d'argent et acheter directement le produit transformé ailleurs. Avant, c'était dans les pays occidentaux dits riches, maintenant de plus en plus vers les pays émergents, notamment la Chine qui est devenue l'atelier de production quasiment mondiale. Et donc, et quand on le fait, d'ailleurs, dites aux Chinois, ils ne veulent pas amener l'industrie en Afrique. Voilà pourquoi il y a des gros conflits entre les dirigeants africains et la Chine aujourd'hui qui n'est pas encore tout à fait ouvert. Pourquoi ? Mais parce qu'ils savent très bien que s'ils font l'industrie en Afrique, mais l'emploi se crée en Afrique et non pas en Chine.
On comprend bien, oui.
Pour amener tous les Chinois pour travailler. Je reviens du Congo. On a vu des gens conduire des bulldozers, c'est chinois. On a vu déjà dans les marchés, c'est chinois. Ils parlent même la langue locale parce qu'ils apprennent très très tôt. Donc, si les Africains ne se lèvent pas tôt pour pouvoir parler chinois et aller vendre des beignets aussi sur les marchés chinois et ou entrer sur les marchés chinois, on a un gros problème de fond. Et donc, on ne transforme pas, on vit de la rente, de la facilité. Et ben, si le chef d'État ou les gens qui sont autour donnent ça comme modèle et que tout le monde y croit, ben, on va continuer à faire de la rente pendant que les gens font la transformation et la valeur ajoutée est créée ailleurs dans les chaînes de valeur.
C'est très clair, merci.
Comment se fait-il que le bois, les billes continuent à sortir d'Afrique? On les a pas coupées en petits bouts pour pouvoir le vendre en pièces détachées chez IKEA ou des gens comme ça, et nous fabriquons un tas de produits qu'on peut assembler.
C'est bien là la question, Yveko Amaizo.
Pourquoi ça ne peut pas aller dans le tourisme? Voilà des questions très concrètes auxquelles nous ne répondons pas.
Effectivement, Yveko Amaizo, vous êtes, je vous rappelle, vous êtes consultant international. On va se tourner, vous connaissez le principe de l'émission, on va se tourner vers les auditeurs et on va écouter tout de suite Marc. Marc, bonjour.
Bonjour madame.
Bonjour Marc.
Votre interlocuteur, le monsieur qui a parlé.
Yveko Amaizo.
Voilà, vraiment, c'est à toutes mes pensées que j'ai depuis lors. S'il y a au moins une dizaine de personnes comme ça en Afrique, en tout cas, moi je sais que l'Afrique va avancer. Donc, je vous ai dit par là que l'émergence, c'est une nouvelle invention des Occidentaux pour endormir les Africains, pour que nous soyons des grands enfants et ils vont aller piller notre continent. Voilà ce qu'ils ont. Et surtout, nous voyons que l'Afrique francophone, nous, tous ces présidents africains francophones qui sont en train de crier partout l'émergence, tout ça, moi je trouve que c'est rien, c'est du bluff. C'est du bluff. Hier, c'était la Côte d'Ivoire à Paris. Aujourd'hui, c'est le Sénégal qui arrive. Mais pourquoi ces hommes prennent nous, les Africains francophones, comme des enfants? Mais est-ce que réellement ils sont censés faire quelque chose d'émergent en Afrique? Nous n'avons aucune industrie.
Nous
ne formons pas des techniciens. On ne forme personne. Et puis maintenant, ils sont là, ils crient sur tous les toits, l'émergence. Mais moi, je ne veux pas qu'ils endormissent les Africains. Il faut que les Africains se lèvent aujourd'hui et qu'ils se forment.
En l'occurrence, Marc, si je peux me permettre, en l'occurrence, Marc, c'est voilà. Le Sénégal qui vient à Paris et c'est le Sénégal qui parle d'émergence, ce ne sont pas les Occidentaux, là.
Non, mais moi, je conteste sur M. Macky Sall, mais il est en train de jouer, là. Il est tombé dans le jeu de tous ceux qui crient partout, émergence. Il faut qu'ils travaillent, qu'ils ne viennent pas ramasser de l'argent ou bien avoir des promesses pour rien. Au Sénégal, il y a de l'arachide. Ils cherchent aujourd'hui à former des gens pour faire l'émergence, afin que nous puissions transformer nos produits sur place. C'est ça qui est le problème. Nous n'avons pas de techniciens, nous n'avons personne. Mais parler d'émergence, à tout ça, c'est quoi?
Merci, vraiment, Marc. Merci de votre contribution. Je me retourne vers vous, Yveko Amaizo. Alors, la construction d'infrastructures, notamment dans le domaine de l'énergie, est un préalable à l'industrialisation. On en parlait juste avant. Quand vous prenez des pays qui sont des pays émergents, hein, comme la Chine ou le Brésil, plus de 98% de la population a accès à l'électricité. Ce chiffre tombe à 75% pour l'Afrique du Sud, mais qui fait tout de même partie des pays émergents, mais à 15% pour le Burkina Faso, dont le président a également l'ambition de faire un pays émergent. Est-ce que l'accès à l'électricité doit-elle être une priorité pour faire de ces pays des économies émergentes?
Je vous réponds tout de suite, je répondrai aussi à Marc.
Tout à fait.
L'émergence ne peut pas fonctionner sans énergie, sans infrastructure et sans Internet. Je vous dis clairement, ces trois vont ensemble aujourd'hui. Et quand je dis Internet, avec une bande passante rapide, hein, je ne veux pas citer le pays, mais quand on tape sur l'Internet et que vous attendez 25 minutes pour pouvoir accéder, et quand vous faites une opération avec une image, ça coupe, et que pendant que vous essayez de réinstaller votre système, l'électricité vient de sauter, et que vous devez attendre que ça bousille votre ordinateur parce que ben, tout simplement on n'a pas mis un bon onduleur, vous voyez que le coût devient très énorme. Donc les coûts de transaction doivent être réduits au minimum. Et ce n'est pas tout à fait le cas dans beaucoup de pays. Ça, c'est pour ce qui est de votre question. L'énergie, infrastructure et le système Internet, parce qu'on travaille en réseau aujourd'hui, c'est fondamental. Pour Marc, il faut faire justice au Sénégal. Il faut faire très attention. Vous avez entièrement raison sur la notion de formation. Et quand je dis formation, on parle nous plutôt de contenu technologique. Une formation dans les métiers, une formation dans le savoir-faire technologique pour faciliter les transferts de savoir-faire. Parce que si je vous emmène un transfert de savoir-faire que vous n'avez pas la capacité de l'absorber, vous ne pourrez pas fonctionner. Donc il faut cette formation-là. Malheureusement, c'est fait de manière souvent asymétrique. Nous croyons toujours qu'il n'y a que les mathématiques, alors qu'on peut très bien être un très bon cuisinier ou bien faire une très bonne confiture de tel ou tel fruit que nous avons ou faire du cosmétique avec du pamplemousse. Ça se fait. La deuxième chose pour le Sénégal, sachez que le Sénégal, sur le programme qu'il est venu émergent, on appelle le programme Sénégal émergent, le Sénégal finance lui-même 60%, 62 même je crois, et il n'est venu en France que pour demander la différence. c'est-à-dire environ 30%. Et sur cette différence, il n'y a que 20% qu'ils demandent aux bailleurs de fonds, c'est-à-dire que les bailleurs de fonds n'ont pas une souveraineté ou une décision sur le Sénégal, encore moins sur Macky Sall, et 10% au secteur privé. Ils vont d'ailleurs lancer un petit programme là pour que le secteur privé puisse financer au niveau de l'investissement étranger direct. Sur ce plan-là, il faut donner un peu raison au Sénégal, qui a fait beaucoup plus attention qu'un certain nombre d'autres pays qui ont cru que tout pouvait venir des bailleurs de fonds, et je ne veux pas citer les pays. Donc faites la nuance entre les deux.
Faites-le, Yves, je vous en prie.
Voilà, allez-y.
Citer les pays, lesquels on comptait sur, uniquement sur l'étranger.
Vous savez, quand vous citez les pays aussi, vous ne pouvez plus voyager. Moi, je suis consultant international, donc il faut que je continue à manger.
On
je veux manger
bien.
La Tchéquée, non pas le McDonald's.
On comprend bien, merci Yves Ekwe Maïso. Je me retourne à présent vers les auditeurs. On va prendre Jean. Jean, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour, j'ai suivi les autres compatriotes qui m'ont précédé. Moi, je dirais tout simplement le mot l'émergence, c'est du pipeau, hein. C'est du pipeau, madame, excusez-moi. C'est une propagande de politique pour endormir les gens, pour dire qu'écoutez, bon, 30 ans au pouvoir, bon, parce que j'étais dans le coma, bon, maintenant je me suis réveillé parce que c'était pas de ma faute, j'étais dans le coma, maintenant je me réveille, je voudrais aller de l'avant. Non, 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 ça c'est du pipeau, madame. Moi, je peux vous donner quelques exemples très rapidement.
Prenons
le Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il faut voir que nous avons de l'argent. Nous sommes un pays pétrolier d'abord. Nous avons de l'argent, mais il faut voir d'abord le gâchis. Le gâchis est encore ce que je peux dire au président du Congo-Brazzaville, qui ne sort que pour des cérémonies officielles ou des trucs comme ça. Mais depuis quand M. Sassou Nguesso a pris son avion de commandement ou bien son matériel de commandement d'aller faire des surprises de chantier en chantier, d'aller voir ce qu'on lui rapporte, ce qui est réel? Ou bien ne fût-ce que d'aller faire une surprise dans l'hôpital général de Brazzaville. C'est pas parce qu'on va construire 5 km de route qu'on va bitumer, qu'on va faire la propagande, que voilà, on est en train de travailler, alors que c'est de latérite, on est en train de verser de latérite. Quand il pleut, eh ben, c'est du patinage. Et la saison de pluie, c'est la poussière. Au nord, c'est bitumé. Au sud, c'est la latérite. La route nationale numéro 1, qui se souffle, je ne sais pas jusqu'où, qui se souffle, on ne sait pas où on en est. Alors que des exemples sont très nombreux.
En conclusion,
des écoles, madame, les enfants qui sont assis à terre. Il y a des écoles même sous les arbres. Les enfants qui sont assis sur. Mais on nous parle de l'urgence. Mais l'urgence, ça viendra quand? Ça viendra quand? Vous avez M. Mbia qui est là. C'est le seul Camerounais. Si M. Mbia quitte le pouvoir, le Cameroun meurt. Vous allez au Gabon, et ce sont les mêmes personnes qu'on parle depuis l'indépendance, la nouvelle génération aujourd'hui, des jeunes diplômés qui sortent des universités, ils n'ont pas de place, parce que depuis l'indépendance, même au Cameroun, que ce soit au Congo-Brazzaville, partout, ce sont les mêmes noms.
Moi, j'étais à l'école.
Aujourd'hui, j'ai 60 et quelques années, j'étais encore à l'école, donc aujourd'hui, ce sont les mêmes noms. Et les autres qui sont là. Vous allez en Angola, les Angolais, il y a eu au moins 2 millions de morts de la guerre civile, de la guerre de l'indépendance. Mais tous qui sont morts pour M. Dos Santos, sa fille et sa famille.
Merci beaucoup Jean, on a bien compris votre contribution, Yves Ekwe Maïso le disait en introduction, finalement ce serait les dirigeants devraient déjà démissionner pour commencer leur plan émergence. Alors Yves Ekwe Maïso, donc je rappelle que vous êtes consultant international, directeur du think tank Afrocentricity. Dans la dernière livraison consacrée au continent de l'espoir, pour paraphraser la une, le magazine The Economist mettait l'accent sur l'augmentation du nombre de milliardaires sur le continent africain. Est-ce que cette augmentation du nombre de milliardaires, c'est un signe de développement économique?
Non, non, absolument pas. Écoutez, si les milliardaires ont fait l'argent à partir de la rente, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas transformé l'économie, ça ne marche pas. D'ailleurs, quand vous dites milliardaire, vous faites bien de le dire, parce qu'il y a un milliardaire nigérien dont je ne veux pas citer le nom, que tout le monde a cité dans la revue Forbes comme étant un des plus grands milliardaires africains.
D'un côté,
et quand
oui.
On est allé regarder dans le détail des entreprises qu'il est en train de gérer, il y en a deux ou trois qui sont en train de couler lamentablement. Et quand il coule, il met tout le monde dehors, il n'en parle pas. Ça va être acheté d'ailleurs par des étrangers qui vont récupérer toute une chaîne, par exemple, dans le domaine des céréales et la transformation des céréales. Alors que la personne en question part dans le pétrole, dans la rente. C'est ça les milliardaires africains.
C'est
deuxièmement, est-ce qu'ils créent de l'emploi? Quand je dis l'emploi, derrière l'emploi, c'est les salaires. C'est les salaires payés au moins à un SMIC raisonnable, acceptable. Donc un salaire décent, un emploi décent. Il faut stopper la notion dans ces entreprises du chef qui fait tout, qui sait tout, parce qu'il faut que des erreurs stratégiques. Et ils ne veulent pas faire participer les parties prenantes, y compris les salariés. Alors, je vais répondre à votre auditeur tout à l'heure pour résumer. Je l'avais dit au départ, qu'il y a certains chefs d'État, sincèrement, ça ne va pas. en fait, c'est lié à la démocratie. Parce que si ces chefs d'État n'ont pas été élus, ou en tout cas ont fait de la contre-vérité des urnes pour pouvoir être élus, par définition, les stratégies qu'ils vont choisir et les options économiques qu'ils vont choisir vont être plutôt de la rente, plutôt de l'alignement sur les pays occidentaux, voire les anciennes colonies, ou carrément les entreprises multinationales et qui leur donnent des bakchiches ici et là. Et ben, par contre, s'ils ont été élus et que tous les 5 ans ou tous les 7 ans, aussi, quelle que soit la durée, ils vont être réélus ou pas par les populations, ils feront attention pour défendre ces populations-là et donc choisir les options qui permettent un mieux-être ou un bien-être. Et ça revient à votre question. Énergie, infrastructure et puis l'Internet, parce que c'est ça le bien-être. Si l'Internet coûte beaucoup plus cher alors qu'un pays comme le Sénégal l'a mis quasiment à la disposition de tout le monde le week-end, le tarif est divisé par deux, c'est beaucoup mieux que quelqu'un qui met un Internet 3 fois plus cher et qui coûte même plus cher que le pain que vous allez manger à midi. Voilà les options, ce qu'on appelle les arbitrages, qui ne peuvent pas se faire. Et là, ils vont s'occuper des problèmes de homosexualité, des choses comme ça, qui sont certainement important, mais pour l'Africain moyen, sincèrement, c'est le dernier de ses soucis aujourd'hui.
On comprend bien, on comprend bien. Je reviens sur la question des milliardaires, Iveco et Amaïso. Alors, contrairement, finalement, à ce qui se passe en Asie, les milliardaires africains, vous le disiez, investissent peu sur le continent. Ça me fait penser à cette phrase de l'écrivain sénégalais Boubacar Boris Diop dans Mourambi, le livre des ossements, qui nous dit « Et si le problème n'était pas notre pauvreté, mais nos riches ?» Qu'en pensez-vous?
Bon, je connais Boris Diop qui souvent est dans la provocation, il a d'ailleurs entièrement raison là-dessus. Mais vous savez, c'est toujours facile d'identifier quelqu'un qui est fautif. Moi, je dis que c'est un système qui ne va pas. Parce que quand vous dites les riches, les... vous parlez, venez à la population la plus simple. Vous allez voir que la corruption qu'on appelle de proximité, elle existe aussi. Si quelqu'un peut voler son voisin, ça ne le dérange pas trop. S'il peut être dans un circuit de clientèle de l'État dans lequel l'impunité, que ce soit en économie, que ce soit en politique, continue, ça ne peut pas fonctionner. Il faut que nous apprenions à nous sanctionner nous-mêmes. Il faut que nous apprenions à nous comparer. C'est ça aussi l'émergence. Je ne l'ai pas dit au début, j'ai parlé des valeurs, mais il y a aussi un autre élément pour l'émergence, c'est les critères qu'on utilise pour se comparer. Et ces critères-là, si vous vous comparez sérieusement, l'autosatisfaction que font les chefs d'État, ils ne pourront pas le faire. L'autosatisfaction que font les milliardaires dont vous parlez, ils ne pourront pas le faire. Demandez les comptes clairs, transparents de 2, 3, 5 et les 10 premiers milliardaires africains. C'est opaque. Vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. C'est noir comme l'Afrique noire dans la forêt noire qui se trouve en Afrique centrale. Comment vous voulez comprendre ce qui se passe là-bas? Ce n'est pas normal. Il faut que nous sachions comment il investit. Où est-ce qu'il investit? Et pourquoi il investit dans les centres offshore à l'extérieur à partir de la rente? Et quand vous dites des choses comme ça, ça ne plaît pas beaucoup.
Merci Iveco Amaïso. Hein, la nécessité de transparence, on comprend bien. On va se tourner vers Ranzer. Ranzer, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour Ranzer, on vous écoute.
De faire vite. Moi, je pense que pour l'émergence de l'Afrique, le problème principal déjà, c'est il faut l'unité. Puisque vous regardez, sur tous les continents, les gens se sont unis. Maintenant, c'est l'Union européenne, c'est les États-Unis, le Royaume-Uni. Les gens s'unissent et pour être forts. Mais en Afrique, le problème, c'est que les pays se divisent encore à l'heure aujourd'hui. Le Soudan, maintenant, c'est Soudan du Nord, Soudan du Sud. Le Mali, même, a failli être divisé avec l'Azawad. Donc, on n'a aucune puissance. Mais pour avoir l'unité, il faut connaître son histoire. Parce que si vous ne connaissez pas votre histoire, comment vous pouvez savoir comment les anciens même étaient unis entre eux? Est-ce qu'ils ont été unis entre eux? Tout ça, c'est important quand même.
Merci Ranzer, merci de votre contribution. Je me tourne vers Iveco et Amaïso. Alors justement, pour reprendre, paraphraser Ranzer, est-ce que Iveco et Amaïso, est-ce que l'intégration peut permettre une véritable stratégie de développement?
L'intégration, elle est fondamentale. C'est comme le mot émergence, elle est fondamentale. Quelqu'un a dit que c'était du pipeau. Non, il faut que ce se fasse. Le problème, c'est qu'il y a des gens, pour rester au pouvoir, pensent l'utiliser justement pour faire du pipeau, pour faire du vent. C'est la même chose pour l'intégration régionale. On va dans les structures de l'Union africaine, on va dans les structures régionales, c'est la même chose. Mais personne ne doute de l'intégration. J'ai demandé une seule fois qu'un seul jour de l'année, un seul jour sur 365 jours, on puisse accepter que toute l'Afrique soit ouverte au niveau des frontières. Un seul jour.
Et qu'est-ce qu'on vous a répondu?
Comment ça se fait? Ce n'est pas normal. Revenons sur ce que la personne. Revenons aux frontières coloniales. L'Union africaine refuse de mettre en cause les frontières coloniales de 1880 quelque chose là. Il faut sauter ces frontières-là, au moins au niveau commercial. Sautons les frontières pendant un jour. Vous allez voir le taux de productivité et d'échange que les gens vont faire entre eux. De toute façon, les gens qui habitent dans les frontières ne connaissent pas ces frontières de toutes les façons. La deuxième chose sur l'histoire. Bien sûr qu'il faut connaître son histoire. C'est impératif. Puisqu'on nous fait croire que c'est nous les fautifs. Mais la l'Afrique a toujours été restée sur son territoire. L'Afrique n'a agressé personne. L'Afrique n'a fait que demander aux gens de venir et de prendre s'ils ont, ils ont besoin et de laisser le reste aux Africains. Non, certains décident que tout ce qui est africain leur appartient d'office. Et faites attention, regardez la cartographie. Parce que les Africains oublient, les dirigeants, je pense, oublient la cartographie. Regardez la cartographie du Mali. Regardez la cartographie de Soudan. Regardez la cartographie de l'Érythrée. Vous allez voir les matières premières qu'il y a au sous-sol. Mais qui sont ces dirigeants qui avons vu ces matières premières, qui avons vu ces cartographies? Et faites attention, regardons la cartographie diversifiée, celle que proposent le Brésil, la Chine ou la Russie, et pas celle que proposent seulement les pays occidentaux qui, eux, vous dites qu'il n'y a rien au sous-sol, et puis d'un seul coup viennent faire la guerre au Mali pour accéder au pétrole ou telle matière première, même si ça se fasse de telle ou telle manière, et que ce sont des gens qui ne sont pas nécessairement des Maliens qui viennent faire ou qui sont à la base de cela. Donc voyez bien qu'il faut poser la question de fond. Qui divise? Parce que c'est bien ça. Si on veut l'unité, que ce soit l'intégration régionale ou sous toutes les formes, qui divise d'abord? Et après, une fois qu'il a divisé, est-ce que nos dirigeants sont suffisamment intelligents pour revenir à la palabre africaine pour se dire, mais le type là, au fond, ne cherche-t-il pas seulement à diviser pour régner sur moi? Et je vous dis, les gens du BRICS, les pays émergents, là, les Brésiliens, Russes, Chinois, Afrique du Sud et autres, ne se mettent pas ensemble pour créer leur propre monnaie. Ils ne se mettent pas ensemble pour faire en sorte que la monnaie dont ils dépendent repose sur leur propre matière première, sur leur propre travail. Et nous avons résolu ce problème. Mais personne ne veut le mettre en application. Donc si vous avez des élites qui proposent et que des gens qui dirigent continuent la rente et ça ne les intéresse pas, nous avons un gros problème en Afrique.
Merci Yves Kouamaïso. Alors on parlait des BRICS à l'instant. Maintenant, il faut savoir qu'on les appelle désormais les 5 fragiles. On va prendre une dernière auditrice. Mara, en 20 secondes très rapidement, que pensez-vous de l'émergence?
Je pense pareil comme plusieurs auditeurs qui sont passés avant moi. Il n'y a pas d'émergence en Afrique. Comment voulez-vous parler de l'émergence à partir du moment où il y a des pays en Afrique subsaharienne noire, je le précise bien, qui a au moins 70% ou 80% des illettrés et les dirigeants ne font rien de ça. Quand on parle de l'émergence, on parle d'abord promouvoir l'éducation surtout. Ça, c'est la priorité d'un dirigeant, d'un président quand il vient au pouvoir. Mais quand on parle pas de l'éducation, on parle que les enfants s'intéressent.
Merci Mara, on retiendra que l'éducation est un préalable à l'émergence. Merci beaucoup Yves Koué Amaïso. Je rappelle que vous êtes consultant international, directeur du groupe de réflexion et d'influence Afrocentricity Think Tank. Merci à Sarah Bassalassé, à Adis Sané. Réalisation Magic Maxime Salin. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur notre site africa1.com.
Le JDA, c'est sur Africa numéro 1.